Alors, je vous invite à lire avec moi le texte de Jean au chapitre 13, versets 1 à 20. Jean chapitre 13, versets 1 à 20. Alors, j'ai choisi ce texte justement parce qu'il me semblait qu'il il va nous permettre de bien continuer à réfléchir sur ce thème de 100% service. Sommes-nous obligés d'aller en Afrique du Sud pour servir le Seigneur ? Alors, Ben a pas dit ça, hein. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons être 100% au service de Dieu ? Et donc, on va voir ça avec le texte de Jean 13, que je vais lire. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit. « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua. « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Jésus lui répondit. « Si je ne te lave pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. » Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, « Ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné étant entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus en effet connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, « Avez-vous compris ce que je viens de vous faire ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse, celui qui partage mon pain se tourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dans ce récit, dès les premiers versets, et tout au long du récit, nous sommes plongés dans une ambiance pleine de tension. Jésus sait que son heure est venue. Et avant de monter vers le Père, il va bientôt passer un très mauvais moment, un moment très douloureux. Au verset 2, on apprend que le diable a déjà semé dans Judas le projet de trahir Jésus. Et tout au long du récit, en fait, cette trahison de Judas nous est régulièrement rappelée. Et plus loin dans le récit, en plein repas, Jésus annoncera l'existence du traître. Satan entrera dans Judas. Judas partira et c'est la nuit. L'ambiance est lourde et pesante. La tension est à son comble. Et Jean nous donne ces éléments d'ambiance, pas juste pour le plaisir, mais pour nous montrer que tout ce qui se passe à partir de maintenant va se faire dans la perspective imminente de la mort de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et à partir de ce passage, jusque pendant quelques chapitres, Jésus va donner une sorte de testament, ses dernières volontés pour ses disciples, qui l'envoient en mission, continuer son œuvre. Et ce geste de laver les pieds va servir d'introduction à tout son discours. Et ça les prépare à comprendre ce qu'il va faire à la croix. Et au milieu de, dans les premiers versets, au milieu de cette tension, il y a un contraste très fort avec l'action du diable. D'un côté, il y a le diable qui met dans le cœur de Judas le projet de trahison. Mais de l'autre côté, il y a Jésus qui donne une marque suprême de son amour. Et à la première lecture, ce verset, il est assez surprenant. Parce que cette marque suprême de l'amour de Jésus, ça se rapporte au geste de laver les pieds. Et si on m'avait demandé à moi, c'est quoi la marque suprême de l'amour de Jésus, j'aurais répondu sans aucune hésitation, c'est la croix. Ici, la marque suprême de l'amour, c'est ce geste. C'est un peu surprenant. Laver les pieds, c'était tout de même un geste marquant pour les disciples. Pour nous, c'est peut-être un drôle de geste, quelque chose de pas habituel. À l'époque, c'était un geste qui était bien connu, parce que marcher en sandales, dans la poussière, dans la chaleur, dans les pièges laissés par les animaux dans la rue, ça donne un mélange pas très agréable à l'intérieur de la maison. Surtout pendant un repas. Mais surtout, c'était un geste réservé aux serviteurs de plus basses conditions possibles. C'était le geste le plus en bas de l'échelle sociale que vous pouvez imaginer. Et même pour les serviteurs, c'est une tâche qu'on réservait plutôt aux serviteurs non-juifs qu'aux serviteurs juifs. Et Jean précise bien que Jésus, au verset 4, prend une serviette de lin. Donc c'est un petit détail, mais ça nous renseigne sur le fait que Jésus prend l'habit de l'esclave qui doit accomplir cette tâche. Donc ce que fait Jésus, c'est particulièrement choquant, parce que c'est justement le maître, le Seigneur, et il fait la chose la plus dégradante dans leur société. Dans leur société, il renverse le positionnement social. Donc, et c'était certainement pas au maître de faire ça, et on comprend bien la réaction virulente de Pierre, versets 6 et 8. « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ? Mais c'est n'importe quoi ! Sûrement pas hors de question !» Pierre a une réaction très forte, mais sa réaction, elle est tout à fait compréhensible dans son contexte, parce que son maître s'apprête à faire un geste dégradant, humiliant, par rapport à sa condition. Mais pour autant, qualifier ce geste de marque suprême de l'amour de Jésus, est-ce que ce n'est pas un peu fort de la part de Jean ? On a quelques indices dans ce texte qui nous aident à bien comprendre ce geste. Et les deux plus flagrants pour comprendre ce geste, le premier se trouve au verset 7, au milieu des expressions scandalisées de Pierre. Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Pierre ne peut pas comprendre tout de suite ce geste, mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre. Et ce que fait Jésus a bien un sens et qui renvoie à un événement futur. Alors, quel événement ? Suspense. Et le verset 19 dit un peu la même chose. « Je vous le dis dès maintenant. » Mais avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Donc ce que fait Jésus a une portée qui dépasse le geste en lui-même. Et dans le dialogue, on comprend assez vite qu'en fait, ce geste pointe vers la croix. Il suffit d'avoir eu les pieds lavés pour être entièrement pur. Et donc normalement, si vous vous lavez les pieds, seuls vos pieds sont propres, mais l'action de Jésus, de simplement laver les pieds, a un impact qui retentit dans toute l'existence des disciples. Ce que fait Jésus rend entièrement pur, sauf Judas, car Judas va rejeter Jésus. Et si Judas n'est pas pur, alors que Jésus lui a effectivement littéralement lavé les pieds, c'est bien parce que le geste pointe vers la purification à la croix. C'est parce qu'au final, Judas a rejeté Jésus à la croix, parce que Judas ne va pas croire qu'il n'est pas entièrement pur. Donc, si ce geste est qualifié de marque suprême de l'amour de Jésus, c'est parce qu'il pointe vers la croix. La croix, c'est l'amour suprême de Jésus, et ce geste, c'est comme un signe de cet amour de Jésus. Mais il me semble aussi que ce geste a une portée un peu plus large que simplement la croix. En fait, la clé de lecture qui permet d'apprécier toute la portée de ce drôle de geste, il se trouve au début du passage, dans les trois premiers versets. À la fin du verset 1 et au verset 2, j'avais déjà un peu relevé le contraste entre la marque suprême de son amour et ce que le diable a semé dans Judas. Mais Jean encadre ce contraste par deux expressions qui se ressemblent au verset 1 et au verset 3. Au verset 1, on a « Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. » Et verset 3, « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et allait retourner auprès de lui. » Il y a deux mouvements dans ces versets-là. Il y a le mouvement de Dieu, de Jésus qui est auprès de Dieu, qui descend d'auprès du Père. Il y a tout qui est remis entre ses mains et Jésus qui remonte. Eh bien, en fait, c'est tout cela que Jésus met en scène dans son geste. Et on le retrouve, ce double mouvement, dans les petits détails qui font le piquant de ce geste. Parce qu'il y a des petits détails qui, à première lecture, semblent ne servir à rien. On avait vu au verset 4 que Jésus prend la serviette de lin du serviteur, donc ça montre que Jésus, eh bien, effectivement, prend la condition du serviteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean donne tous les détails qui pourraient paraître superflus, et il précise bien, à la fin du geste, que Jésus enlève son vêtement, enlève sa serviette de lin pour remettre son vêtement. Et comme dans un récit, aucun détail n'est vraiment superflu, si Jean nous raconte ça, c'est que ça sert à démontrer son propos. Jésus, à l'aide de cette situation frappante, raconte sa descente sur terre pour prendre la condition du serviteur le plus méprisable afin d'accomplir son œuvre purificatrice des péchés. Dans ce geste, Jésus met en scène tout son ministère, toute son œuvre qui commence dès l'incarnation, où il prend notre condition d'homme. Non seulement il vient sur la croix, mais il avait toute sa gloire auprès de Dieu. Et il a décidé de quitter toute cette gloire de Dieu pour venir dans notre fange, dans notre déchéance, dans notre boue, pour porter tout cela sur lui, à la croix. Et après, il annonce le mouvement ascendant qui va bientôt arriver. Jésus va ressusciter et reprendre sa place auprès du Père. Et c'est justement à ce moment-là, quand Jésus sera au ciel avec le Père, qu'il prépare ses disciples. Il prépare ses disciples au moment où il ne sera plus là. Mais en attendant, Pierre et les disciples ne comprennent pas. Et Jésus leur dit « Vous ne comprenez pas, c'est normal, tout va bien. » Parce qu'il faut attendre que tout cela se passe pour qu'ils puissent comprendre. Et donc dans le dialogue avec Pierre, on a un quiproquo entre Jésus qui explique qu'il va à la croix, et Pierre qui voit juste Jésus en train de leur laver ses pieds. Et donc, ils ne sont pas au même niveau de compréhension dans leur dialogue. Et donc, soit Jésus est très taquin, et il prend un malin plaisir à faire tourner Pierre en bourrique, soit Jésus est pédagogique, et il utilise une pédagogie en deux étapes, en fait. Il fait d'abord un geste qui choque, qui marque, qui questionne. Peut-être qu'il commence à comprendre des choses comme l'humilité et le service. Et plus tard, ils prendront conscience que ce geste humiliant de laver les pieds, en fait, c'était pas grand-chose comparé à ce que Jésus est venu faire à la croix. à ce qu'il a subi en s'incarnant et en mourant pour eux, en mourant pour nous. Donc la dernière question qu'on va se poser, c'est quelles sont les implications de ce geste pour les disciples et pour nous ? Et en fait, Jésus le dit lui-même à partir du verset 12, il tire les implications de ce geste pour ses disciples. Ils doivent, eux aussi, se laver les pieds les uns des autres, comme leur maître l'a fait pour eux. Et si le maître l'a fait, plus forte raison, les serviteurs doivent l'imiter. Et si on a compris la portée de ce geste, laver les pieds, c'est pour Jésus, c'est mourir à la croix. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les disciples doivent eux aussi se laver les pieds les uns des autres ? Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent mourir à la croix eux aussi ? S'il leur demande de l'imiter, lui qui a quitté sa gloire dans le ciel et s'est fait homme pour nous servir en mourant à la croix ? Alors on voit dans le contexte de tout ce passage-là, que Jésus prépare ses disciples à poursuivre son œuvre. Il ne s'agit pas de mourir à la croix pour les hommes. Ça, Jésus l'a fait une seule fois. Il n'y a pas besoin de le refaire. C'est le sens de la croix. Mais les disciples sont amenés à faire tourner les regards vers la croix. Mais pour cela, Jésus montre à ses disciples l'attitude fondamentale avec laquelle ils doivent fonder, mener, diriger l'Église. Ils doivent suivre l'exemple de leur maître. J'avais souligné dans le geste le renversement social du maître qui se fait serviteur. Ici, Jésus rétablit un petit peu l'ordre. Et peut-être qu'il rebondit sur la réaction des disciples au verset 13. « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Le maître, c'est bien moi. Les serviteurs, c'est vous. » Mais il rétablit cet équilibre pour mieux les engager à suivre son exemple. Je suis le maître, alors faites comme moi. Prenez-moi comme modèle. Et donc dans ce modèle que donne Jésus, il y a au moins deux dimensions. La première, c'est l'engagement total pour les autres. Cette mission des disciples, ce n'est pas un job comme un autre. Ce n'est pas un hobby, mais c'est une mission qui leur demande de se donner totalement au service des autres. Au point que certains, même des disciples, suivront très concrètement l'exemple de leur maître jusqu'au bout, en mourant, mourant martyr, pour témoigner de leur foi de Jésus-Christ. Alors, je ne sais plus si j'ai déjà dit ça ici, mais chez nous, le modèle du chrétien à suivre, dans beaucoup d'églises, dans notre courant évangélique en général, c'est le conducteur de louanges. Celui qui est sur le devant de la scène et qui aide les gens à se réjouir en chantant, et bon, c'est très bien. Dans les premiers siècles de l'Église, les modèles de chrétiens, c'était les martyrs. Au point qu'il y avait de l'abus, et certains recherchaient le martyr, donc il faut peut-être toujours réfléchir aux abus de nos positions, mais ça fait réfléchir. Jusqu'à où sommes-nous prêts à aller ? Est-ce que sommes-nous prêts à aller aussi loin que Jésus est allé pour nous ? Et deuxièmement, ce que fait Jésus donne l'orientation de l'œuvre des disciples. Ils ont aussi pour mission de pointer vers la croix. Ils invitent tout le monde à se faire laver les pieds par Jésus. En prêchant l'évangile, ils invitent à croire que lui, il est. Il est Dieu qui s'est fait homme pour nous pardonner. Et de cette manière, il continue l'œuvre que Jésus a fait à la croix. Et c'est ce qu'il dit au verset 20. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus envoie ses disciples pour que les auditeurs des disciples puissent recevoir Jésus comme eux-mêmes ont reçu Christ. Alors pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas apôtres, nous ne sommes pas les 12 à qui Jésus s'est adressé, donc on peut se demander si ce texte nous concerne et jusqu'à quel point ce texte nous concerne. Et je pense que, d'une certaine manière, ce texte nous concerne comme il concerne les apôtres, dans le sens que, comme les apôtres ont continué l'œuvre de Jésus, l'Église dans son ensemble continue l'œuvre de Jésus. Et ça dit quelque chose de l'attitude fondamentale que chaque chrétien est amené à prendre dans l'Église. Alors chacun à sa manière. Tout croyant est appelé à adopter cette attitude qu'a eue Jésus de nous servir quand il a quitté sa gloire pour nous servir. Cette attitude fondamentale, c'est cette attitude fondamentale qui nous donne le cap de notre vie, la direction que doit prendre notre vie. Nous sommes chacun, à notre manière, au service des autres, et les autres ne sont pas à notre service. Et chacun est appelé à servir le Christ à sa manière. Tout le monde n'est pas amené à prêcher, mais peut-être tout le monde peut être amené à témoigner de sa vie pendant le quotidien, au travail, auprès de ses amis. Et la réflexion que nous sommes en train d'avoir, qu'on a eue sur la vision d'Église, sur le projet d'Église, ça nous a ouvert plein de perspectives sur ce que chacun d'entre nous peut faire au sein de ce grand projet, cette histoire de petite flèche dans la grande flèche. Et je crois que ce texte nous invite à ne pas nous relâcher, mais de nous engager toujours plus dans ce cadre qui nous est proposé, de réfléchir à chacun comment je peux contribuer à ce grand projet. Mais ce texte met aussi en avant la motivation de Christ qui est venu à notre service par amour et nous invite à réfléchir aussi sur nos motivations pour servir à la lumière de sa motivation. C'est toujours utile de sonder les motivations pour lesquelles nous voulons servir le Seigneur. Parce que nos motivations sont bien souvent mélangées, contradictoires, teintées par notre ego, notre vieil homme qui nous attend au tournant, criant « et moi, je veux être le centre de ma vie ». Et on peut faire de très bonnes choses pour de très mauvaises raisons. C'est assez facile de dériver lentement, mais sûrement, de cette attitude de service. On est influencé aussi par notre société très individualiste, qui est centrée sur, avant tout, l'épanouissement personnel. Et c'est frappant de voir un certain nombre de cadres qui ont beaucoup travaillé dans des milieux comme la finance, les services, l'ingénierie, et qui, à partir de 30 ans, se trouvent asséchés, mener une vie vide de sens, et bien avant la crise de quarantaine, décident d'ouvrir un bar parce que leur vie n'a pas de sens, et parce que tout est compris comme ce que je le fais pour moi. Et si ce que je fais pour moi ne m'offre pas davantage, je l'abandonne. Alors, bon, c'est pas mauvais de rechercher son épanouissement, bien sûr, ça nous influence. Et d'ailleurs, quand j'explique ce que je fais dans la vie à un non-chrétien, c'est très bizarre pour lui de voir quelqu'un qui passe ses journées à étudier la Bible, à parler de la Bible à des étudiants croyants ou non. Mais si je présente ça sous l'angle de l'épanouissement personnel, ce que je fais, ça m'apporte beaucoup, tout de suite, ils comprennent. Ils trouvent ça intéressant. Notamment, je me souviens d'un ami, quand je réfléchissais un peu au ministère, que je réfléchissais à abandonner ma carrière d'ingénieur pour entrer dans le ministère, il y a un de mes amis qui m'a beaucoup encouragé, un ami non chrétien qui m'a beaucoup encouragé à cela, parce qu'il voyait que en fait, je prenais du plaisir à ce que je faisais, beaucoup plus qu'avec l'informatique. Et donc, c'est super d'être épanoui par ce qu'on fait, mais si ça devient notre motivation première et qu'on subordonne tout le reste à notre épanouissement personnel, ça devient un peu dangereux. Pourtant, Jésus veut notre épanouissement personnel. Il veut que nous soyons heureux. Si vous savez tout cela, vous serez heureux, pourvu que vous l'accomplissiez. Mais être heureux passe par notre service envers les autres et pas par les autres qui viennent nous servir. Alors, il y a mille autres motivations qui peuvent venir teinter notre attitude de service. Parfois des bonnes choses, mais qu'on détourne un petit peu et qui en deviennent très mauvaises. Par exemple, l'exemple de la prédication, parce que je connais assez bien quelques prédicateurs, j'en connais notamment un assez bien. Donc pourquoi je prêche ? Pourquoi est-ce que nous prêchons ? Est-ce que je prêche pour être bien vu, pour avoir de l'influence, du pouvoir, ou pour vous éblouir par ma rhétorique? Est-ce que je veux que nous soyons éblouis par la parole de Dieu? Ou alors c'est un mélange des deux? Nos motivations sont souvent mélangées. Et c'est valable dans toutes les manières de servir qu'on peut imaginer. Est-ce que je me donne beaucoup pour les autres, en les visitant, en passant du temps avec des personnes seules, parce que je suis en quête de reconnaissance, d'attention? Est-ce que je travaille pour l'Église de manière effrénée, en visitant, encore une fois, des personnes seules, parce que j'ai l'impression que Dieu m'aime plus, que Dieu m'accepte plus, même si je sais, dans un coin de ma tête, que Dieu m'accepte parce que Jésus s'est sacrifié pour moi, et pas parce que je fais. Il y a une autre partie de ma tête qui me dit qu'en agissant, et bien Dieu m'aimera plus. Ou est-ce que je me donne à fond parce que ça m'évite de réfléchir à mes problèmes de relation avec mon conjoint, mes enfants, ma relation avec Dieu? Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on peut détourner en étant au service de Dieu. Et je pourrais continuer longuement la liste de nos motivations tordues, mais si on médite sur ce geste, qu'on réfléchit à ce que Jésus a fait, à la grandeur de l'œuvre, à ce que ça lui a coûté, on se rend compte que bien souvent on est un peu ridicule avec nos prétentions et nos folies des grandeurs. Et en contrastant nos motivations avec celles de Jésus-Christ, ça nous motive à coup sûr de suivre son exemple. Et tout seul, on est bien incapable de suivre l'exemple de Jésus-Christ, mais la bonne nouvelle, c'est que dans sa grâce, Dieu nous utilise, petits que nous sommes, faibles que nous sommes, il nous fait faire des œuvres plus grandes que nous-mêmes. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour le servir, parce que sinon personne ne le servirait, mais il nous donne son exemple pour que nous le suivions, et ce qu'il nous demande de faire, il nous donne les moyens de le faire. Il nous transforme et nous équipe. Alors nous pouvons compter avec assurance sur sa grâce pour suivre le chemin tracé par notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et pour finir, je vous invite à prendre quelques moments de réflexion silencieuse pour vous poser la question suivante. Est-ce que je veux que ma vie entière imite le Christ qui s'est fait serviteur? Est-ce que je veux que ma vie entière imite Christ qui s'est fait notre serviteur? Sinon, qu'est-ce qui me bloque? Si oui, quelles sont nos mauvaises motivations, celles que je peux demander au Saint-Esprit de changer? Notre Père, merci, car tu nous as envoyé ton Fils. Merci parce que notre roi s'est fait notre serviteur. Merci parce que de cette manière, tu nous as pardonné tous nos péchés. Merci pour cette foi que tu nous as donné d'avoir en toi. Merci parce que nous te devons tout ce que nous sommes. Et nous te prions que, avec tout ce que tu as fait en nous et tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas continuer de faire en nous, tu puisses nous utiliser, tu puisses nous envoyer pour que nous soyons témoins de ce qu'a fait Jésus-Christ pour nous. Que chacun, à notre manière, nous puissions nous consacrer entièrement à toi. Que nos pensées puissent être remplies de toi, environnées, que nous ayons sans cesse en tête qui tu es, et que ça puisse orienter tous les actes de nos vies. Je te prie de nous garder et de continuer à nous transformer par ton Saint-Esprit. Amen.